Et là pour activer la caméra, bonjour à tous, bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le 3 juin 2021 et on attaque tout de suite. Merci à tous pour vos abonnements, merci la licorne secrète, bonjour à tous, j'ai vu qu'il y a 2-3 personnes qui se sont abonnées avant l'émission, donc merci à vous, je vais prendre le temps de vous remercier, je vais juste vous prouver que ce n'est pas un faux décor derrière, pour ceux qui ont suivi un petit peu le Twitch achat, je vous prouve en direct que c'est un vrai décor, regardez, ah non la plante, ah putain, merde. Bon bah j'ai renversé de la terre partout. Merde. Bah voilà, hein, c'est la preuve que c'est mon vrai décor. voilà, un bon mug qui commence bien. On sent qu'on est fatigué, hein, on sent que ça fait un an là que les mugs n'ont pas pris de pause. Voilà, merci à tous, merci pour vos abonnements. Putain, je suis foutu de la terre partout. Ah là là, merci à tous, hein, donc Alias Lu, La Clo, IQ, La Licorne Secrète, Neo, Artelis, Join the Fougue, et puis voilà, bah merci à tous, ça fait plaisir. C'est bien fait la plante en 3D, ouais t'as vu, j'aime bien l'effet que ça fait sur la plante. Bref, hein, bienvenue dans le Mug Now Tech, aujourd'hui on va parler de plein de choses très 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 chouettes. Il faut juste que je démarre l'oreillette, au cas où, voilou, pour voir un petit peu les messages. Si nécessaire. Hop, 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 hop. Où est-ce que c'est ? Elle est là. Hop. Voilà. On va parler aujourd'hui dans le mug de Firefox, de Linky, de UC Brother sur iOS ou Android, un navigateur assez connu. On va parler de Huawei, on va parler d'Harmony OS, de tout ce qu'ils ont annoncé. Et on terminera en parlant... Bien sûr, vous êtes sur le mug de Guillaume. Un petit peu de la CNIL, du RGPD. Je sais que vous venez le jeudi aussi pour ça. Même si certains me disent, Guillaume, tu parles trop de vie privée. Et j'ai envie de vous dire, ouais, peut-être, mais tant pis, c'est pas grave, c'est intéressant, en vrai, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Merci à tous pour vos abonnés. Un 30 live, ok, au calme, très bien. Merci à tous, c'est trop bien. Alors, attendez, en fait, l'oreille... Je vais lancer le générique du Kawa. On va démarrer le Kawa avec Firefox, grosse nouvelle Firefox. Et je vais démarrer l'oreillette plutôt sur l'iPad. Je démarre le Kawa. Hop, alors, mais merci à tous, mais qu'est-ce qui se passe ce matin ? Merci à tous. Niveau 3 du train de live, très bien. Bah, je sais pas, vous êtes très en forme ce matin, bah, merci à tous, ça fait vraiment très 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 plaisir. Merci de soutenir, voilà, l'oreillette est là, c'est bon. Merci de soutenir Nowtech et tout ça, c'est chouette. Merci Fizoren pour tes 100 bits. On RGPD fanboy, non, pas spécialement, en plus je pense qu'il y a des trucs qui sont très critiquables, mais on va en reparler tout à l'heure. On commence dans ce Kawa chargé ce matin. Merci Goonies pour ton abonnement. Kawa chargé ce matin parce que on a beaucoup de news et on va commencer par la news qui fait grave plaisir parce que vous le savez que moi je vous embête toujours avec Firefox parce que c'est un super navigateur qui est en perte de vitesse pour plein de raisons. Le matraquage, principalement le matraquage monstrueux publicitaire de Google. Qui a préinstallé Chrome chez plein de gens à travers, rappelez-vous, des installations d'applications. Hein, on se rappelle de CCleaner, par exemple, qui préintégrait Google Chrome. Je suis sûr que dans le chat, il y en a qui se rappellent hein, de plein de logiciels comme ça qui préintégraient Google Chrome. Google Chrome s'est installé de façon un petit peu détournée comme ça. Les gens se sont habitués. C'est un très bon navigateur, il est vrai, mais c'est un navigateur qui collecte plein de choses. Merci Poneymore pour tes 9 mois. Pas d'Apple. Non, pas trop d'Apple aujourd'hui. Quasiment pas. Incroyable, n'est-ce pas ? Firefox 89 marque un tournant dans la longue histoire du navigateur de Mozilla parce que les développeurs ont choisi de modifier l'apparence et le rôle des onglets. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu le nouveau look de Firefox. Hop, laissez-moi juste mettre la scène... Oula, je suis vraiment très petit. Attendez, hop... Voilà, et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Mais merci à tous pour vos abonnements. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Vous êtes chaud? Vous avez le porte-monnaie qui brûle. C'est très sympa. Train de la hype level 4. Je sais pas ce qui se passe. Merci beaucoup. Ça régale. Ça régale, ça régale. Donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble. Je ne sais pas si le plein écran va marcher. Si. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble le nouveau Firefox. On va se mettre en meilleure qualité, en 1080p. Mais par contre, en fait, je vais plutôt zoomer parce que j'ai l'impression que sinon ça fait pas mal laguer. Voilà, le stream étant une activité qui demande beaucoup de ressources. Des fois, ça fait un petit peu laguer. Donc, en fait, ce qui change beaucoup dans Firefox, c'est leur nouvelle interface qui s'appelle Proton. Merci pour vos bits, merci pour vos abonnements. C'est la nouvelle interface qui s'appelle Proton et l'affichage des onglets change. Ce sont des onglets maintenant flottants. Je trouve ça assez joli. Alors, dans l'exemple qu'ils donnent, eux, ils donnent un exemple avec un thème très gris. Voilà, là, on le voit bien. Très gris, très blanc. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de, mais vous pouvez le faire dès que vous installez Firefox, de mettre un thème sur Firefox pour qu'il soit un petit peu plus personnalisé. Par exemple, moi, j'ai un thème coloré. Ça me permet aussi de différencier Firefox de mes autres navigateurs, parce que j'ai quatre navigateurs sur mon ordinateur pour plein d'usages différents. Voyez là un petit peu ce que ça donne au niveau des onglets. On a aussi des choses assez chouettes. Par exemple, quand on regarde une vidéo sur, enfin un live sur Twitch, on a juste en dessous. En train d'écouter le live de machin. Enfin, il y a des onglets un petit peu plus contextuels, un peu plus intéressants, et c'est très très sympa. Ils ont simplifié les choses, ils ont rendu le truc un petit peu plus, voilà, un petit peu plus flat, un petit peu plus, un petit peu plus doux, j'ai envie de dire. Alors, c'est presque une news. J'aurais presque préféré, même j'aurais préféré que Marion fasse cette news parce qu'elle est beaucoup plus, voilà, playing. Là, vous voyez qu'il y a un petit en lecture parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi en UX et en UI. Mais voilà, j'essaye du mieux de mes connaissances de vous montrer un petit peu les changements et les billes et les choses. Voilà, donc vous avez toutes les plateformes qui sont disponibles. Ça, mais merci pour le train de hype, hein, level 5. Merci à tous, exceptionnel. Merci à tous de devenir contributeurs. Je tiens à vous le rappeler, si vous êtes contributeur, vous avez accès au Discord. N'hésitez pas, la communauté est active sur Discord. Vraiment, venez avec nous. Et il y a aussi le vide-grenier avec des produits qu'on vend de la communauté ou des produits Nowtech qu'on vend à pas cher. Vous pouvez faire des bonnes affaires sur des bons produits. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On est quasiment 1500, je crois, sur le Discord. Donc ça régale. Voilà pour le nouveau Firefox. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le mien pour que vous voyez un petit peu. Moi, j'ai mis un thème très coloré. J'aime beaucoup. J'aime pas quand c'est tout triste, moi. J'avoue que j'aime beaucoup quand c'est un peu coloré. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, attendez 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Je décale juste des marque-pages. Hop, et je vous fais un petit aperçu. Tac, 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 tac. Parce qu'il y a des trucs un peu perso. Voilà. Voilà, je vous montre un petit peu quand j'ai des onglets. Qu'est-ce que je peux ouvrir? Je peux ouvrir un Trello. Je peux ouvrir un GitHub. Comme ça, vous voyez un peu les choses. Hop, voilà. Moi, mon Firefox ressemble un peu à ça. Hop, impression d'écran. Voilà, voilou. Et le jeudi contributeur, tout à fait, vous avez accès au jeudi contributeur. Alors attendez, je vous montre un petit peu à quoi ressemble mon Firefox en haut. Mais je vous montre surtout la barre du haut parce que c'est ça qui a changé principalement. Enregistrer l'image. Voilà, j'enregistre l'image sur mon bureau et je vous montre ça immédiatement. Pour ceux qui écoutent en audio, parce que c'est vrai qu'il y en a qui écoutent en podcast, en gros, Firefox est plus sobre. Onglet flottant, que dire de plus? Plus élégant, plus voilà, tout en finesse. Merci, merci toujours pour vos subs, merci à tous. Alors attendez, je vous montre un peu l'image. Voilà, je vous montre l'image. Je vais la mettre de façon très sale sur la fenêtre, mais comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, je vais cropper parce que sinon, clairement, c'est un peu nul. Et voyez au niveau des onglets ce que ça donne. Voilà, au niveau des onglets, ça donne quelque chose un petit peu comme ça. Moi, j'ai mis un thème plus coloré, donc moi, je préfère. Un truc un petit peu multicolore, noir, bleu, rose, orange. Quand il y a un onglet qui est actif, ça donne ça. Évidemment, un GitHub sur des Google pour avoir plein d'alternatives. Vous vous en doutez bien, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Très girly, mais c'est marrant, à chaque fois que les gens voient des trucs un peu pop, ça, les gens pensent que ça fait meuf, mais je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve ça juste joli, quoi, c'est tout. Je trouve ça juste joli. On voulait voir tes repos GitHub. Eh non, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Ça sera pas pour cette fois-ci. On est vachement dans la mode de l'épurer. C'est... Pour analyser un petit peu plus ce qu'est en train de faire Firefox. Firefox est en perte de vitesse depuis des années. Firefox, ça faisait très longtemps qu'ils devaient, mettre à jour leur interface pour justement attirer un public, comme vous et moi, qui aime avoir des logiciels qui sont un peu plus élégants, un petit peu plus jolis. Alors, il y a aussi des améliorations techniques dans Proton. Il y a aussi les cookies qui sont compartimentés pour aussi avoir un discours vie privée. Et ils ont raison, et c'est bien qu'ils le fassent. Mais clairement, ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est aussi le look, la première installation d'un navigateur. Et enfin, Firefox fait ça. Par contre, vous voyez, typiquement, de mon analyse en niveau com, une erreur de Firefox est d'appeler cette version Firefox 89. Pour moi, Firefox fait une erreur là-dessus. Firefox aurait dû remettre un peu à plat leur système de version. Et c'est une opinion que je donne. J'aurais beaucoup aimé que Firefox dise « Nouvelle interface, on a fait des gros changements, on appelle ça Firefox un truc un peu stylé. » Firefox Reborn, Firefox X, Firefox Returns, Firefox, je sais pas, un nom un peu classe. Firefox 2021, quitte à faire l'année ou un truc comme ça. Parce que je trouve que Firefox 89, pour des noms dev, c'est nul. Et c'est pas mémorable. C'est-à-dire, ah ouais, attends, à quelle version il y a eu... En gros, ce que je veux dire, c'est que dans 3-4 ans, on se rappellera pas du tout de quelle version de Firefox a été mémorable, pour laquelle il y a eu un gros changement. Et c'est important, la com. C'est important, le marketing et la com, c'est important même pour un projet orienté utilisateur, avec un business model plus cool que celui des GAFAM, par exemple. Je trouve ça vachement important. Enfin, c'est quand même important. Donc voilà, beaucoup de petites évolutions pour Firefox. J'aurais beaucoup aimé qu'ils disent, tiens, c'est la nouvelle version Firefox pure. Firefox pure, pourquoi pas? Firefox new, Firefox Proton, pourquoi pas? Ou même renommer le navigateur en Proton. Proton, en plus, le nom est très, très, très cool. Pour casser un petit peu... Bon, après, appeler ça Proton, c'est un peu compliqué parce qu'il perdrait tout l'historique Firefox, mais vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse, mais je pense que ça aurait pu être vachement intéressant d'un point de vue com. Parce que là, pour moi, ça fait juste bon. Voilà, ça fait pour moi, c'est une très grosse évolution de Firefox, mais ça fait bof de dire que c'est juste Firefox 89. XXX, Firefox XXX. Je suis pas convaincu du marketing Skyblog de Sanali Eric. Quel est le meilleur navigateur à ton avis? Il n'y a pas de meilleur navigateur, il y a des usages différents. Et il y a des navigateurs qui sont meilleurs dans certains usages. Chrome reste objectivement plus rapide. Mais je trouve que le meilleur équilibre entre rapidité et vie privée, c'est Firefox aujourd'hui. Brave est très bien, mais Brave... Faites attention à Brave. Brave n'a pas quand même un business model... comment dire ? Brave, c'est une boîte derrière. Une boîte, son but, c'est de faire de la thunasse. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Naotech, notre but, c'est de faire de l'argent pour développer la chaîne. Le problème, c'est que Brave, dans le passé, a fait des trucs un peu shady. J'ai pas très confiance en Brave. Ils utilisent beaucoup de... Ils ont leur propre crypto-monnaie. Ils ont remplacé des pubs sur des sites web pour ramener sur leur... pour générer de l'argent pour eux. Moi, c'est pas une boîte en laquelle j'ai confiance. Je préfère installer Firefox. À choisir, je préfère installer Firefox ou Vivaldi. Vivaldi qui... alors, pour le coup, le business model de Vivaldi est encore un peu... un petit peu flou. Mais Vivaldi, a priori, a une orientation beaucoup plus utilisateur. Donc, voilà. Moi, dans le doute, je préfère encore aujourd'hui utiliser Vivaldi plutôt que Brave. Brave a bien marché à cause d'un marketing très très fort. Hein. Ils ont bourriné comme des oufs. Mais j'ai pas confiance. Voilà. Tout est une question de confiance dans la tech. Hein. On vous le répète souvent. J'ai pas confiance en Brave pour leur historique. Hearthswine and Firefox. Pas mal ça. Franchement, Vivaldi, super pratique. Moi, c'est mes navigateurs principaux. C'est Firefox, Vivaldi et Iridium, qui est une espèce de fork de Chrome très axé vie privée. Mais voilà, je vous conseille pas parce que c'est très, 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 c'est très particulier. Google Chrome et AdWords, c'est très bien. À partir du moment où vous êtes sur Google Chrome, vous envoyez vos données à Google. Partez de ce principe-là. Si vous êtes OK avec cette idée-là, pas de souci. Sur Nowtech, on vous prévient toujours des risques dans le futur d'envoyer un peu ce que vous faites sur Internet à des entreprises à distance. Mais si vous êtes OK avec le principe, pourquoi pas? Moi, je ne le suis pas du tout, par exemple. Mais parce qu'en plus, ça fait des années qu'on l'a trop fait et voilà, il commence à y en avoir un petit peu marre d'envoyer des données à droite, à gauche, sans savoir vraiment ce qui est fait. Et d'ailleurs, justement, Firefox, cette nouvelle version, a un système de pot à cookies. J'aime bien l'idée, je trouve que pour le coup, le marketing est bon là. L'idée, c'est que ils le font en navigation privée, mais en navigation privée, chaque site web que vous visitez a son propre pot à cookies et les cookies ne parlent pas entre eux. Donc ça, c'est vachement intéressant, ce principe de se dire que chaque site web est compartimenté pour éviter d'avoir un dialogue entre les cookies. Donc c'est cool d'avoir un navigateur qui se bat un petit peu pour ça. Firefox, alors attention, après, Mozilla et Firefox sont pas exempts de défauts. Il y a eu des dramas, il y a eu des partenariats, notamment avec Pocket, qui était préinstallé sur Firefox. Il y a plein de trucs qui sont pas parfaits sur Firefox, mais on va dire que c'est le meilleur compromis. Certains diraient que c'est la moins pire des solutions. C'est le meilleur compromis, quoi. Edge, c'est pareil. Edge t'envoie tes données à Microsoft. Si t'es OK avec ça, pourquoi pas. Edge collecte énormément de choses de ce que tu fais sur ton navigateur. Voilà. Tu en penses quoi d'Opera GX? Opera GX, c'est une entreprise chinoise qui est derrière. Ça collecte tes données. À partir du moment où on navigue sur Internet, on envoie nos données en partie à Google. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'autant plus, comment dire, en utilisant Firefox, comparé à Chrome, tu minimises. Tu envoies moins de données. Donc, c'est pas parce que tu envoies des données que ça vaut pas le coup de minimiser. Il y a une grosse différence entre fumer 5 clopes par jour et 10 clopes par jour. Tu vois ce que je veux dire? Dans les deux cas, tu t'abîmes les poumons, mais tu t'abîmes quand même bien moins gravement les poumons dans un cas que dans l'autre. Safari, c'est OK. Même si c'est Apple, c'est pas open source, mais c'est OK. C'est OK tiers. Voilà. Le pot à cookies, c'est le même principe que sur iOS, comme dans la dernière pub d'Apple. C'est une bonne question. Oui, j'imagine que c'est un peu similaire, ce qu'a fait Apple, l'App Tracking Transparency, le fait que tu n'aies pas d'identifiant commun. J'imagine que oui, tu peux considérer que c'est un petit peu similaire. Techniquement, c'est pas pareil, je pense, mais dans les faits, ça génère la même chose, quoi. Voili, voilou. Ah, je suis d'accord, tu minimises, mais tu ne descends pas à zéro. Du coup, il faut faire attention dans le discours donné. Si tu navigues sur... si tu te connectes à YouTube avec Firefox, tu envoies des données à Google, mais t'envoies moins de choses. C'est ça qui est intéressant. Sur Firefox, t'as plus d'extensions pour sécuriser le navigateur. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. La navigation sur Edge est plus rapide et plante moins. J'avoue, j'ai tendance à utiliser Firefox, il est un peu contradictoire ton message Saturn, non? Surtout Firefox n'est pas basé sur le moteur de Chrome, contrairement à Edge et consorts, ça évite de donner les clés du web à Google. Ouais, ça c'est des problématiques plus développeurs et développeuses, on va pas en parler maintenant, mais oui, il y a d'autres raisons qui sont cool pour éviter de tout mettre sur Chrome et Chromium, ouais. Internet Explorer. Non, ça par contre, je déconseille. Ça, je déconseille. Bref, j'en ai parlé il y a 2 secondes. Bref, j'ai pas confiance. Pour l'instant, c'est à peu près OK. J'ai juste pas confiance. Merci Sandokan pour ton réabonnement. Et Team BNDB aussi. Merci à vous deux. J'ai pas confiance. Ils ont fait des trucs pas bien dans le passé. Donc j'ai pas confiance dans une entreprise où le business model est... où ils ont fait des trucs pour leur business model qui sont un peu douteux. Ils ont aussi fait du... ils ont remplacé des liens pour inclure leur affiliation. En gros, c'est que... En gros, ils ont twitchachaé leur navigate. Non, en gros, le twitchacha, c'est notre petit live qu'on fait le mercredi où on vous met des liens d'affiliation parce que ça permet pour nous, si vous faites un achat, de développer la chaîne et les revenus. Mais nous, on vous prévient. On vous dit, si vous cliquez sur les liens, vous mettez un tracking sur votre navigateur. Brave l'a fait sans vous prévenir. Brave a, vous utilisez le navigateur et ça affilié leur propre lien. Ce qui est quand même extrêmement douteux. Ils l'ont fait à l'insu des gens, c'était pas du tout clair. Voilà. Sur Nowtech, le mercredi midi, on vous met de l'affiliation, mais au moins on vous le dit. Non, mais voyez ce que je veux dire. Pour moi tout, le plus important, de toute façon, et on va conclure là-dessus, le plus important, c'est la transparence. Je trouve que ce qui se passe sur Internet depuis des années, notamment les GAFAM, n'est pas transparent. Je trouve que ce n'est pas transparent. Il y a beaucoup d'utilisation de vos données, le fait de naviguer sur certains sites, par exemple Doctissimo, des choses comme ça. Quand on voit qu'il y a des dizaines d'entreprises qui traquent vos faits et gestes, et vous ne le savez pas, c'est envoyé aux États-Unis, c'est envoyé dans des entreprises ultra inconnues, vous ne savez pas. Et le problème, c'est qu'en ne sachant pas, voilà, votre vie privée est complètement violée, tout simplement. Donc c'est problématique, quoi. J'ai du mal à croire avec l'exemple de Brave qu'une organisation lucrative peut proposer un navigateur vraiment transparent dans lequel on peut avoir confiance. Encore une fois, je veux pas non plus tomber dans le cliché de lucratif égale mal, parce que c'est pas vrai. On peut vouloir générer de l'argent sans être une entreprise de nulle. Mais c'est pour ça que j'aime bien le principe de Mozilla, qui est d'avoir la fondation Mozilla et d'avoir une entreprise à côté qui, elle, va faire des goodies, va essayer de générer des revenus, va faire des choses comme ça. Ça permet d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes, tout simplement. On va avancer. Et on va parler... Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. Ouh là là, on va parler de Linky. Et ça va créer du drama dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Donc oui, gros drama autour de Linky récemment. Ça fait 3-4 jours qu'on parle un petit peu de ça. Je vais essayer de vous expliquer. Même si, alors, je vais être complètement honnête avec vous, c'est pas méga clair. Parce que, en fait, on n'aura pas le détail tant qu'on n'aura pas les factures de fin d'année. De toute façon. Là où on va voir si cette histoire est vraie, c'est quand on verra les factures d'électricité chez vous, si vous avez un compteur Linky. Donc, bon. Je vous fais un petit résumé de l'histoire. Il y a un article de presse qui a mis le feu aux poudres et qui mentionnait que les usagers équipés d'un compteur Linky, c'est 90% des gens, donc c'est quand même pas mal, doivent s'attendre à une augmentation de leur facture à compter de 2022, une augmentation qui vise à rembourser Enedis du coût d'installation de ces compteurs estimé à 5,7 milliards d'euros. Donc en gros, Enedis, ils ont installé les Linky, ça coûte 5,7 milliards d'euros d'installer Linky. Cette somme, Enedis s'en est déjà acquitté. La société a en effet contracté un prêt de 5,39 milliards d'euros, donc en gros, ils ont quasiment fait un prêt pour tout rembourser, afin de financer les coûts d'installation et de mise en service des compteurs Linky, le reste étant financé en fonds propres. Mais comme l'explique le Parisien, la filiale d'EDF entendrait rembourser cette avance en facturant les coûts d'installation aux utilisateurs, en surplus de leur facture de consommation électrique à partir de la fin d'année. Donc potentiellement, il y a une somme qui a été, un tarif qui a été énoncé de 130 euros supplémentaires. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué. Alors, évidemment, ça a fait une énorme polémique. Le gouvernement, la ministre notamment, la ministre déléguée à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, à l'Assemblée nationale, a dit que les consommateurs ne paieraient pas plus, ils ne paieront pas un coût supplémentaire dû à Linky. Enedis exerce une mission de service public régulé, rémunéré au travers d'un tarif d'utilisation des réseaux d'électricité, sous le contrôle de la commission de régulation de l'énergie, blablabla. Ça vérifie que le budget, c'est bien respecté, que ça ne devrait pas coûter plus aux utilisateurs. Il n'empêche qu'il y a du drama. Voilà, alors, la vérité, c'est que, en fait... Même en vous expliquant le truc en entier, parce qu'il y a des articles qui essayent d'expliquer un petit peu que, en fait, Linky, c'est pas intéressant maintenant, mais d'ici à 2030, ça va être plus intéressant. Et je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, alors c'est ce schéma qui, je vais pas le détailler, mais c'est ce schéma qui est intéressant et qui montre qu'il y a un surplus à cause de coûts, à cause de Linky. Mais comparé aux tarifs, en l'absence de Linky, c'est en vert, on s'y retrouve. Normalement, au final, on va payer un petit peu moins. Voilà. Mais il n'empêche que ça la fout mal, parce que toute la com de Linky était « on vous force un petit peu, mais t'inquiète frère, c'est gratuit ». C'est un petit peu ce qu'on nous a dit, très honnêtement. Après, je veux pas tomber dans du complotisme de bas étage, je veux pas dire « ah, oh, mais c'était un complot ». Moi, si ça se trouve, c'est tout simplement une mauvaise gestion de budget. Et je pense que si vraiment il y a un coût répercuté sur les utilisateurs, je pense que ça sera probablement dû à ça. Juste une mauvaise estimation du budget, un coût remboursé là parce qu'ils ont une dette. Enfin, voilà. C'est possible que ça soit plus simplement ça qu'une volonté de douiller les utilisateurs. Et utilisatrices, bien sûr. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'il faut en penser ? Moi, je sais pas. Sur Notech, des fois, on ne peut pas forcément vous analyser tout. Parce qu'on n'a pas encore les billes en main. On verra effectivement s'il y a des augmentations du prix de l'électricité. Je pense qu'on reparlera de ça dans le futur. Mais c'est vrai que le problème fondamental de Linky, c'est la com. Parce que si on se retrouve à payer pendant quelques années plus cher le tarif d'électricité, en sachant qu'il y a de plus en plus de pauvres en France, plus en plus de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, en plus avec la crise du Covid, ça a augmenté tout ça. Eh bien, ouais, c'est problématique que la facture d'électricité augmente. Surtout si les gens ont du Linky. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me paraît complètement problématique. Comme le dit l'article en question, c'est surtout la somme à rembourser, la différence de taux 0,77 fois 4,6% qui est critiquable. Ils se font 500 millions dans l'affaire. C'est effectivement une des hypothèses. Le but de Linky est à terme de facturer la puissance... Oula, j'ai pas compris ton message. Faites attention à bien vous relire, les gens, avant de mettre vos commentaires. Péril, tu dis fausse polémique. Une polémique n'est jamais fausse. S'il y a une polémique, c'est que, à minima, il y a eu un problème de com. Ma facture a augmenté depuis Linky. Toute cette histoire est liée au fait que personne ne comprend sa facture d'électricité. Peut-être. Faut pas l'installer. Moi, je l'ai pas et tant mieux. Connerie, j'ai refusé au départ l'installation de Linky, ils m'ont facturé 130€ déjà, ils m'ont forcé la main en disant que toute future intervention refusée sera aussi facturée, la gratuité est totalement bullshit, d'accord. Doinet, tu dis, ils vont nous la faire à l'envers, non, il n'y aurait pas de surplus, mais en réalité, avec le nouveau réseau, on devrait avoir une baisse du tarif. Donc oui, ça, c'est ce qui est vendu effectivement par Linky, des coûts de maintenance réduits parce que tout peut se faire à distance. Donc en gros, on n'a pas la baisse de facture qu'on devrait avoir pour le coût qui devrait être gratuit ou plus bas. Le suivi m'a permis de bien suivre ma consommation d'électricité et de la baisser. Par contre, le prix, c'est autre chose vu que ça augmente souvent. Après, c'est pas forcément dû à Linky. Forcément, l'augmentation, ça peut être d'autres raisons. Vous n'êtes pas propriétaire de votre compteur électrique. Moi, je suis pas forcément contre et je suis pas forcément anti-technologie. Je pense que c'est intéressant d'installer... Enfin, Linky me paraît une solution intéressante. Juste, ça aurait été chouette d'avoir un peu plus de transparence... d'expliquer les choses peut-être. Alors peut-être que j'ai loupé un mail aussi, mais à culpa peut-être. Hein. J'ai peut-être loupé une explication claire et simple. J'ai pas eu l'impression de l'avoir, l'explication claire et simple. Je me rappelle d'un technicien qui était venu me l'installer, mais j'ai pas le souvenir que le technicien m'ait expliqué clairement les choses. Voilà quoi. Après, c'est bien Linky, tu peux suivre ta conso hors pair. Non, bah, par contre, moi j'ai désactivé ça. Merci XianFR pour ton abonnement. Pour des raisons de vie privée, moi, j'ai désactivé le suivi en temps réel de Linky. Je n'ai pas envie que ma conso électrique soit suivie en temps réel. Je sais que une consommation électrique donne énormément d'infos privées et c'est quelque chose que je ne veux pas. Certains diront parano. Moi, je protège ma vie privée. J'ai le choix. Je minimise. Voilà. C'est ma façon de voir les choses. Mais je sais qu'à chaque fois que je parle de ça, les gens me disent « Tu es parano, Guillaume ». On verra dans 20-30 ans. Je suis prêt à prendre un pari que dans 20-30 ans, il y aura des gros problèmes à cause de la vie privée et des données aujourd'hui. Il y a déjà eu Cambridge Analytica, mais c'est sûr et certain. Les gens veulent qu'on leur explique les choses et quand on le fait, comme ils ne sont pas en mesure de comprendre, ils remplacent ce qu'ils n'ont pas compris par des croyances. C'est un peu vrai, Hibou. Mais je viens de switch sur Barry et là j'avoue que Linky c'est top, aucune intervention et je peux re-switch quand je veux. Ouais, typiquement pour ce genre de choses c'est bien Linky. Donc je veux pas faire de l'anti-Linky, hein. Voilà, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. L'augmentation vient des... Je vois que putain, ça balance des points de chaîne hein, sur Linky, hein, ça vous fait réagir. L'augmentation vient des coûts exorbitants pour adapter le réseau aux nouvelles énergies renouvelables intermittentes au lieu de faire du nucléaire, conséquence d'arbitrage. C'est un autre débat le nucléaire, JN Squire. Tu es Guillaume Parano, je suis plus Guillaume Slash, exactement. Ma facture a baissé car j'arrive à monitorer. Ça, c'est chouette. Ils connaissent les appareils utilisés quand tu donnes ton consentement des données heure par heure. Non, mais ils connaissent ta conso électrique. Ça donne énormément d'infos, ta conso électrique. Le fait que tu aies des pics d'activité, ça peut donner... Le fait que tu aies allumé ton ordi, ça peut donner au moment où tu as lancé ta machine à laver, ton lave-linge. Ça donne énormément d'infos. J'adore la vie privée. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Exactement. En fait, je suis Guillaume slash Vandame. C'est plutôt un Guillaume prudent. Moi, je me trouve prudent. Et puis, en vrai, je suis pas non plus tant parano que ça parce que je continue d'avoir un iPhone à côté de mon Android. Ça m'arrive d'utiliser... J'allais dire Chrome, mais non, même pas. Non, mais ça m'arrive d'utiliser des services Google encore, YouTube, tout ça. Et s'il y a bien un truc qui est niveau vie privée pas terrible, c'est YouTube. Hein, le fait de regarder des... Je regarde beaucoup de vidéos politisées sur YouTube, de tous les bords politiques d'ailleurs. J'essaie de garder l'esprit un peu ouvert. Mais c'est des infos qui peuvent être utilisées contre moi dans le futur. Quoi, t'as regardé Usul, mais t'es un islamo-gauchiste. Quoi, t'as regardé Raptor Dissident, mais t'es un facho. Bah non, je regarde les deux parce que je trouve ça intéressant de voir un peu les deux côtés. Et je suis d'ailleurs, sur certains points, ni d'accord avec l'un, ni d'accord avec l'autre. Et sur certains points, je suis d'accord avec l'un et d'accord avec l'autre. Souvent, d'ailleurs, je suis plutôt d'accord sur les constats que sur les solutions. Mais, mais bon, on va pas partir politique. Non, de tous les bords de gauche, même pas Oleg Impec. Non, non, c'est pas vrai pour le coup. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Hello, j'arrive juste à... Non, on va pas déborder sur Satoki. Tu sais que l'électricité, ça vient pas seulement en allumant un bouton sur une centrale. Faut savoir simplement comment consomment les gens. Ouais, d'accord. Je préfère utiliser Linky que remplir un pseudo jeu psychotest sur Facebook qui arrive à avoir beaucoup plus d'infos dangereuses que moi. Ouais, mais en fait, alors, par contre, attention, parce que la comparaison, c'est un argument qui peut justifier tout et n'importe quoi. Je préfère utiliser Linky que fumer un max de cigarettes. Bah oui. Oui, c'est pas un argument valable. La pluralité des discours, qu'ils soient plus ou non extrêmes, ça permet systématiquement d'améliorer la situation pour qu'elle soit favorable à tous. Moi, je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de chiant politiquement. Je suis quelqu'un de très chiant. Je suis pas du tout tranché. Je pense que les solutions viennent en mélangeant un petit peu les opinions et en essayant de trouver les meilleurs compromis. Je pense pas que l'extrémisme d'un côté ou de l'autre soit bon. Je pense que des fois, il faut prendre des décisions qui sont pas faciles, mais je pense qu'il y a une différence entre de la prise de décision pas facile et de l'extrémisme. Prise de décision, c'est quand même le but, c'est d'écouter un petit peu... c'est d'avoir les risques en tête. L'extrémisme, c'est de s'en foutre et de penser que c'est la meilleure solution et de jamais... merci Lord Asiu Like pour ton réabonnement. Vous êtes chaud ce matin pour les réabonnements. Merci à tous, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Oui, juste pour terminer sur Linky très rapidement, ce qu'il faut bien retenir, on va vraiment finir là-dessus, c'est que a priori, c'est ce que je vous montrais, mais a priori, le déploiement des compteurs Linky est, à moyen terme, moyen long terme, un facteur d'économie, en dépit des coûts d'investissement initiaux. Enfin, c'est ce qu'il faut retenir quand même de Linky de positif, c'est qu'a priori, Linky est quand même intéressant économiquement pour la population française. Voilà. Mais pas tout de suite. Et il est probable que pendant quelques années, il y ait une répercussion sur la facture des usagers. Et c'est ça qui est chiant. Allez, on va conclure là-dessus. Non, après, je suis pas neutre non plus sur certains trucs, OneRim. Mais je suis... sur certains trucs, je suis chiant. Mais c'est pas grave. Les gens se réabonnent sur le mug présenté par celui qui fait le plus long. Je dis ça, je dis rien. J'allais dire une phrase de bof, je vais pas la dire. On va avancer et on va parler de UC Browser. Alors, est-ce que vous connaissez UC Browser? Je vais faire un petit sondage, tout de suite. Je vais faire un petit sondage pour savoir si vous connaissez UC... Alors, mieux, est-ce que vous avez déjà installé dans votre vie UC Browser? Typiquement, moi, je répondrai oui. Gérer les sondages. Nouveau sondage. Déjà installé UC Browser. Oui, non. Je vais faire un sondage à la Jérôme. Oui, non. Déjà installé UC Browser. Je suis très curieux de voir un petit peu si parmi vous, il y en a qui ont déjà installé ce navigateur. Soyez honnête, hein, on n'est pas là. De toute façon, c'est anonyme, on n'est pas là pour juger ou pas. Alors, il y avait beaucoup de noms au début, mais ça, le oui... Ah, non, il n'y a pas beaucoup de oui quand même. Pour l'instant, il n'y a que... Ah, ça remonte un petit peu. 8 personnes. Jamais entendu parler. C'est pour continuer à avoir Flash. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Connaissez-vous UC Browser aurait été bien aussi. Non, je suis pas d'accord. Je préfère savoir si des gens ont déjà installé le navigateur. 12 personnes pour l'instant qui l'ont déjà installé, pour quasiment 200 qui l'ont pas installé. Donc bon, le pourcentage est quand même... Mais ça remonte un petit peu le oui, hein. Ça remonte un petit peu. Bon, le temps que le sondage se termine, je vous explique un petit peu. C'est un PSA, comme on appelle ça, un Public Service Announcement, donc une annonce publique. Le navigateur UC Browser, qui est effectivement détenu par une entreprise chinoise, que ça soit sur iOS ou Android, mais aussi sur iOS, collecte beaucoup de données sur vous. Et c'est un problème. Et en fait, c'est juste pour vous dire que faites super attention au navigateur mobile que vous installez. Et sans faire de l'anti-sinoïsme de bas étage, il est vrai que beaucoup de navigateurs détenus par des entreprises chinoises en fait collectent énormément de choses malgré la promotion qui en est faite sur la page de l'appli. Donc UC Browser, c'est détenu par Alibaba, entreprise extrêmement connue en Chine. C'est le quatrième navigateur le plus populaire dans le monde, donc c'est pas rien, hein, UC Browser. Et la huitième application la plus installée, de la dernière décennie. Donc quand je vous demande si vous avez déjà installé UC Browser, c'est pas anodin, c'est qu'en fait c'est une application extrêmement connue. Bon, vous êtes 16 personnes, donc 7% des gens, à avoir installé UC Browser. Ok. Bon, ça me rassure de voir que 93% ne l'ont pas installé. Et donc, un chercheur en sécurité, vérifié par deux autres chercheurs en sécurité, s'est rendu compte que UC Browser, donc il suffit en fait de sniffer le réseau, en fait, de vérifier les paquets envoyés et tout ça, s'est rendu compte que UC Browser est un cauchemar de vie privée et que ça log tous les sites que vous visitez, ça les envoie sur les serveurs d'Alibaba, même en mode privé, même en mode incognito. Traduction, les sites de fesses que vous regardez sont envoyés sur des serveurs chinois. Et je trouve que c'est parlant de parler de pornographie, parce que ça fait partie des choses quand même, bah là pour le coup, extrêmement intimes, et typiquement savoir que des choses que vous avez potentiellement regardées, et vous faites ce que vous voulez de votre vie perso et privée, mais que ça soit envoyé, collecté et envoyé à des serveurs chinois, et vous ne savez jamais ce que ça va être, voilà, ce qui va être fait dans le futur, c'est quand même problématique. Donc, tout simplement, si vous regardez des fesses, regardez-les dans Firefox. Voilà. Putain, mais Guillaume, il est relou avec son Firefox, là. Laissez-moi regarder mes sites de fesses sur mes navigateurs chinois. Hein, c'est bon, là. À ce niveau, c'est plus un navigateur, c'est un VPN. Mais qu'est-ce que tu racontes, Oleg? Xi Jinping qui va me prendre mes bonnes adresses, je suis deg. Exactement. Hein, Oxymor, tous tes favoris là, hein, ils sont collés. Le PCC les connaît. Hein, on sait que tu regardes des trucs de licorne. Hein, les licornes. C'est bizarre comme forme quand même. Hein. Meilleur argument ever. Moi je trouve que c'est un bon argument en vrai. Au bout d'un moment, si tu dis pas des choses crues, les gens ils comprennent pas. Ce navigateur est populaire en Asie, peut-être pas dans le reste du monde. Il est quand même bien marketé. Petit test. Là, j'ai pris l'iPhone. Petit test. Regardons. Si je tape dans l'App Store, je vais taper navigateur web. Je fais le test en direct avec vous. Navigateur Internet, c'est ce qui est suggéré. En premier, Opera, entreprise chinoise, sponsorisée. On a Firefox, ça régale. Après, c'est peut-être qu'ils ont analysé des données, je ne sais pas, mais Firefox, Brave, Opera, donc en troisième sans le sponsor. Il y a un navigateur Internet privé un peu chelou, je ne sais pas trop ce que c'est, Chrome. Navigateur web privé, ok. Meilleur navigateur internet, navigateur privé, c'est marrant quand même. Hein. C'est marrant cette promotion. Navigateur web cake, navigateur iFox, private browsing. Bon, il n'y a pas UC Browser, je suis deg. Je sais qu'à une époque, il était quand même bien mis. Alors attendez, on va faire un deuxième test. Bon, en tout cas, sur iOS, c'est pas mal. On va regarder sur Android. D'ailleurs, est-ce que je le ferai pas directement sur le navigateur? Si, on va le faire sur le navigateur. On va aller sur le Play Store. On va aller sur le Google Play Store. Et sur le Google Play Store, je vais faire le test. Alors, par contre, il me met le store en anglais. Technical language. Bon, je fais le test en direct. Je vous montre. OK. Comme ça, vous voyez que je ne triche pas. Je tape web browser. OK. Google Play Store. Est-ce qu'on a eu ces browsers dans les premiers résultats? Je suis très curieux. On l'a là. Ah oui, c'est, en plus, oui, c'est vrai que c'est cette icône d'écureuil. J'ai le souvenir que cette icône d'écureuil était quand même beaucoup plus en haut des résultats avant que maintenant. Aujourd'hui, on a Firefox. Putain, Firefox qui est bien monté. DuckDuckGo, c'est pas mal DuckDuckGo. Edge, ceux-là, je ne les connais pas du tout. On a Opera, Chrome. Très étonné que Chrome ne soit pas plus mis en avant. InBrowser, machin, Brave, Opera Mini. OK. Si tu mets juste Browser, ils sont troisième. Ah. Si tu mets juste Browser. Ils sont remontés, moi. Là, c'est marrant que vous n'ayez pas les mêmes résultats. Il est introuvable. Sur iOS, ouais, il n'est pas trouvable. OK, intéressant cette petite expérience matinale. Hibou, tu dis quoi? Je reste intimement persuadé que tout device connecté envoie nos données, quelles que soient les mesures que l'on pense prendre pour s'en prémunir. C'est faux, Hibou. Factuellement, c'est faux. Il y a des dizaines de backdoors dont nous n'avons pas conscience. La course à la vie privée me semble désespérément vaine. C'est faux. Là, je te le dis, Hibou, en toute amitié, fais gaffe parce que c'est un peu le genre de discours qui fait qu'au bout d'un moment, tu tombes dans la vraie parano et le complotisme. C'est-à-dire de se dire, non mais c'est sûr qu'en fait on nous écoute. Non, pas forcément. Juste pas forcément. En fait, il y a un moyen très simple de le savoir. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'iOS est pas si mal niveau vie privée quand même. C'est que tu as des outils pour sniffer les paquets réseau. D'accord, t'as des Linux, t'as des choses comme ça. Pour vérifier ce que t'envoies dans un réseau Internet. C'est un outil extrêmement efficace pour vérifier qu'effectivement, tu as des choses ou pas qui sont envoyées à des serveurs. Donc non, c'est pas parce que t'as une appli ou un appareil connecté que ça envoie forcément des données privées. Pas forcément. Non, faites attention de pas non plus tomber dans la parano de « Ouais, mais de toute façon, la vie privée, c'est un combat mort, y a aucun intérêt, machin. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tic. Je ne pense pas être écouté. Je pense que si quelqu'un veut m'écouter, il le pourra quand même. J'essaierai de l'en empêcher. Ben après, si t'as un État qui veut t'écouter, Hibou, si t'as la NSA ou la CIA qui veut t'écouter, bien sûr que ça c'est possible. Mais comme n'importe qui. Là, on parle plutôt d'entreprises qui essayent de choper tes données et tout ça. On va avancer parce qu'il est déjà 44 et on va faire une news un petit peu plus rigolote. On va parler de masques et pas de masques Covid, de masques pour vaches qui capturent le puissant gaz à effet de serre généré par leur rot. C'est pas une vanne. Les vaches émettent beaucoup de méthane lorsqu'elles rotent. C'est connu, hein, voilà, le méthane, les vaches. Les bovins émettent beaucoup de méthane. C'est un problème plus sérieux qu'il n'y paraît, car ce gaz à effet de serre est bien plus puissant que le CO2. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 25 fois plus puissant que le CO2, le méthane, pour faire de l'effet de serre. Voilà. Il y a énormément de bovins en élevage dans le monde, vous le savez. Et le géant de l'agriculture, Cargill, rien à voir avec Carglass bien sûr, a cependant identifié une autre technologie prometteuse dans ce domaine, un masque pour vaches, capable de filtrer les rots afin de piéger le méthane que les vaches émettent. La société a en effet annoncé le 1er juin qu'elle allait commercialiser des appareils inventés par la start-up britannique Zelp, qui devrait arriver sur le marché européen d'ici 2022. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un espèce de masque slash harnais, on pourrait dire. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si je peux vous montrer l'image en plus gros. Si. Voilà. En gros, il y a des espèces de petites membranes ici qui vont aller capturer le méthane dégagé par les rots des vaches. Alors, tu dis, les pauvres animaux, on leur fait survivre tellement de choses. La start-up, alors bon, après, c'est évidemment que la start-up dira ça, mais la start-up dit que ce n'est pas gênant pour l'animal. Après, à voir. Il y a des tests qui doivent être encore faits, c'est pas encore commercialisé, mais je trouvais la news un petit peu marrante, un petit peu intéressante. Même si je pense qu'après, ça peut être, la technologie va aider dans la lutte contre le réchauffement climatique, même si je suis intimement convaincu que, en fait, le réchauffement climatique, je suis un peu pessimiste sur ces questions-là, je pense qu'en fait, on va pas réussir à réguler le truc parce que ça demanderait une trop grosse coordination au niveau de plein de pays. Je pense qu'en fait, ça va s'auto-réguler tout seul. C'est-à-dire que, vous voyez la pénurie de transistors qu'on a, enfin de processeurs qu'on a en ce moment. En fait, on aura ça puissance 1000. C'est-à-dire qu'on aura plein de pénuries de plein de produits. Je pense pas qu'on sera dans un aussi gros caca que les certains écologistes le disent. Je pense que ça va être très dur. Ça va être très dur pour beaucoup de peuples et de populations. Je pense que les Occidentaux vont s'en sortir un peu mieux. Bon, c'est triste, hein, mais je pense que c'est vrai. Mais je pense qu'en fait, les choses vont s'auto-réguler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part un peu dans les graviers, mais on jouit d'un confort assez énorme. Le fait, par exemple, de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de manger un steak. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de manger du saumon. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de manger tel produit. Aujourd'hui, c'est possible. Vous allez dans n'importe quel resto, magasin, bidule, vous avez n'importe quel produit à peu près qui est dispo. Je pense que d'ici 20-30 ans, ça n'existera plus. Je pense qu'on vit une époque où c'est encore possible. Je suis convaincu que d'ici 20-30 ans, ce genre de choses, de se dire « tiens, tel produit sera dispo », ça va s'autoréguler et ça ne sera pas possible. Parce qu'on va atteindre les limites de la Terre, parce qu'on va atteindre plein de choses. Plein de limites, en fait, factuelles. Donc, je pense que tout simplement, il y a plein de choses qui vont s'autoréguler et on apprendra à vivre avec moins de choses. Et ça sera comme ça. Réduire sa consommation de viande, c'est tout. C'est une bonne solution, ça contribue à réduire. Je ne pense pas que c'est ça qui va... En fait, c'est trop individuel pour que ça marche. Le problème de l'écologie, c'est que c'est un problème qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mondial. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. C'est pour ça d'ailleurs que si on a noté qu'on vous parle de Take Your Time, c'est pour ça qu'on vous dit gardez vos iPhones, vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre iPhone tous les ans. C'est pour ça que nous aussi, on vous parle de technologie plus écolo, plus respectueuse de la planète, parce que c'est important. Et puis au-delà de ça, il y a de la philosophie aussi, c'est qu'en fait, on peut être très heureux avec le smartphone de l'an dernier. Mais pour revenir au problème plus global, je suis convaincu que les choses, en fait, vont juste se réguler toutes seules. Et qu'on va vivre avec moins de choses et avoir moins de confort, tout simplement. Il y aura plus de régulation, on pourra, je pense, pas utiliser, par exemple, l'eau comme on le veut. Aujourd'hui, là, vous pouvez faire couler 3 bains dans une même journée, si vous voulez. Probablement que dans 20-30 ans, ça sera plus possible. Dans 20-30 ans, vous aurez droit à tant de litres d'eau par jour. Il y aura toujours les produits haut de gamme, mais très rares et très chers, et les pauvres mangeront de la bouillie. Je pense pas non plus qu'on atteindra ça. Je pense qu'on aime bien se faire des scénarios catastrophes, parce que l'imaginaire humain est très pessimiste, et les films sont très pessimistes aussi. Je pense pas qu'on atteindra ça. Par contre, je pense qu'on vivra avec beaucoup moins de confort. Pour étudier la question, on est parti pour plus 3 degrés max en 2100. On a un gros choc pétrolier imminent qui va aider à auto-réguler. Importation de soja pour animaux comprises. En fait, c'est sûr et certain que les choses vont se... Ça va se combler de soi-même, tout simplement. C'est n'importe quoi. Et quand on va t'empêcher les rois du Qatar de vendre le pétrole et de freiner... De quoi, Electribe? Mais pareil, si tu veux parler du pétrole, je pense aussi que le pétrole... Comment dire, le pétrole va coûter trop cher au bout d'un moment. Et le jour où le pétrole va coûter trop cher, on va être obligé de mettre des mesures en place pour le limiter, enfin, tout ça. Il y a des métiers qui vont être plus compliqués, enfin, voilà. Mais je suis pas convaincu qu'on va vivre une époque terrible, comme certains aiment bien le dire et aiment bien faire des scénarios catastrophes. Voilà, je suis assez convaincu qu'en fait, on va doucement transitionner vers une économie et vers une société où... on aura beaucoup plus de limitations sur les choses. Blade Runner 2049, ouais, cool l'avenir. C'est fou, voyez comment vous êtes pessimiste. Je pense qu'être pessimiste n'est pas non plus une solution. Voilà, parce que sinon, autant pas vivre, vous voyez. Enfin non, j'ai pas envie d'être comme ça. Le notec du jeudi, ça donne toujours le moral. Non, c'est des questions intéressantes. C'est des questions qui sont super intéressantes, je trouve. On aura quelques virus. T'es pas très optimiste. Moi, je suis réaliste, mais je pense qu'il faut le prendre avec philosophie. Je pense que de toute façon, ça va arriver. Donc, autant philosopher là-dessus et l'anticiper un peu. Et voilà. Tant que les kebabs continuent d'exister, je suis heureux. Ça, je pense que ça devrait peut-être aller. D'ailleurs, une fois, j'avais mangé un kebab vegan. Et bien, c'était pas dégueu du tout. Et je me dis que si on doit réguler manger moins de viande, mais qu'on peut manger des kebabs vegan. Franchement, c'est ok. Je suis pas vegan, moi, hein, mais franchement, c'est ok de manger ça. Je trouve que ça avait le même goût et bon, quitte à avoir de la malbouffe, honnêtement, autant pas manger de la mauvaise viande. Quid de nos techs dans 10-20 ans? Je sais pas, on verra. Manger moins de viande, les kebabs, c'est mieux. Ouais. De toute manière, l'homme a toujours réussi à s'adapter. Je ne fais pas plus de sushis que ça. Oui, moi je le vois comme ça. Je pense qu'on réussira à s'adapter. Après, ça va picoter un peu, mais c'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça. Ce sera dans beaucoup de régions du monde quand tu entres dans un magasin, tu vois ce qu'ils proposent pour choisir. Et non pas comme chez nous, tu choisis puis vas acheter. De quoi? Attends. Ce sera comme dans beaucoup de régions du monde quand tu entres dans un magasin, tu vois ce qu'ils proposent pour choisir. Et non pas comme chez nous, tu choisis puis vas acheter. Ah oui, en gros, on aura des choix plus limités. Oui, je suis assez d'accord, ouais. Laissez les vaches péter, rôter et chier en paix. Merci Electraï pour ce commentaire d'une finesse. Exceptionnel, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, c'était marrant de voir ces masques. Juste pour terminer dessus, donc les masques, c'est un business, hein. L'écologie va être un business aussi. Les masques devraient être commercialisés via des abonnements. Zelp a évoqué l'idée d'un tarif annuel de 80$ par vache. C'est malin. Très smart. Très, très malin, Zelp. Voilà, vous devez émettre moins de méthane, pas de souci. On vous fait l'abonnement 80$ pour émettre moins. Ah, l'écologie, hein, la taxe carbone, les trucs comme ça marche bien, hein, économiquement. L'écologie est un business. L'écologie est en train de devenir un business, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hein, on le voit par exemple l'écotourisme. L'écotourisme est aujourd'hui un business et un argument fort. Les gens ont de plus en plus de mal à. Enfin, comment dire? Je vais le tourner autrement. Le facteur écologique d'un voyage est aujourd'hui un facteur qui touche beaucoup de gens. Et effectivement, quand vous dites que votre voyage est plus écolo que celui du voisin, les gens auront peut-être tendance à aller plus dans votre voyage green, vert. Si l'écologie n'arrive pas à prouver que c'est un business, elle n'a aucune chance. Ce qui n'est pas rentable n'est pas accepté à grande échelle. C'est assez vrai, Olek. Je suis assez d'accord. On trouve des solutions à de faux problèmes. Le problème, ce n'est pas les vaches, mais l'industrialisation de l'élevage. Il y a 1 milliard de problèmes qui sont liés au réchauffement climatique. On ne peut pas les faire maintenant. Et on va passer à une autre news, beaucoup plus tech, classico del Madrido. Et on va parler de Huawei et d'Harmony OS. Voici un aperçu. On va vous montrer un aperçu officiel de l'interface de Harmony OS. Alors, comment vous dire? Alors, quand je fais ce silence, c'est pas un silence de mépris. C'est juste un silence de. Ça ressemble beaucoup à iOS quand même. J'aime beaucoup Huawei, ils font des bons téléphones, mais les widgets comme ça ressemble beaucoup. Les icônes comme ça ressemble quand même beaucoup à iOS. Bon allez, blague à part. Donc voilà un petit peu à quoi va ressembler Harmony OS. Il y a une petite, il y avait une vidéo que je voulais vous montrer aussi. On a un centre de contrôle, pareil, qui a un petit côté un petit peu iOS, hein, bien sûr, avec ces carrés-là. Ils ont, je vais essayer d'aller un petit peu vite sur cette news. Ils ont annoncé un système. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas AirDrop. Alors ça, c'est assez original et je voulais vous en parler de ça. Huawei a annoncé un truc qui est chouette, c'est que, imaginons que vous ayez votre smartphone. Votre smartphone, il est au centre de cet écran-là. Et vous voulez le connecter, par exemple, le son de votre téléphone à votre télé, ou à votre ordi portable, ou à vos écouteurs Huawei. Eh bien, vous faites glisser. Merci pour ton abonnement, c'est qui? Merci Fougère. 40. Vous faites glisser la bulle de votre téléphone vers votre device. Et ça va vous le connecter automatiquement. Je trouve que d'un point de vue ergonomie, c'est vachement malin. C'est un petit côté AirDrop. Ça ressemble à AirDrop, mais c'est pas AirDrop. C'est un système de connexion un peu simplifié. Et je trouve ça pas mal, honnêtement. Pour vous montrer d'autres images, là, on a un espèce d'agenda. Alors, c'est beaucoup en chinois, malheureusement, donc c'est un peu difficile de lire les choses, mais ça vous montre quand même des images. Rien d'exceptionnel sous le sapin. Hein, c'est de l'Android avec un truc qui ressemble quand même un peu à iOS. Vous voyez les applications qui sont ouvertes sur vos appareils. Par exemple, si vous êtes sur la tablette, vous voyez que sur votre Android, sur le Huawei, vous avez l'appli qui est ouverte. Enfin bon, voilà, rien de super excitant, mis à part cet écran-là que j'aime beaucoup, mais sinon rien de bien excitant. Ce sont des choses qu'on a déjà sur d'autres constructeurs, mais je voulais vous en parler parce que c'est quand même Huawei, c'est pas non plus Jôle Rigolo cette marque, donc voilà. Un petit article de fin d'Android où je voulais juste passer dessus rapidement parce que je trouve l'article un peu violent. Qui dit Huawei a copié Android 10 jusqu'à l'Easter Egg machin, en mode est-ce que il est légitime de se demander si l'OS de Huawei n'est pas qu'un simple fork d'Android. Et moi dans ma tête à chaque fois que je vois ça, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils disent oui, fork, copie, machin. Bah oui, mais en même temps Android AOSP, Android Open Source Project, est un projet open source. Donc si un constructeur a envie de forquer, même de copier le projet open source et d'appliquer un skin dessus avec ses services, bah c'est le principe d'un projet open source. On ne peut pas accuser Huawei de copier Android s'il copie... Enfin, il copie un projet open source, mais c'est pas mal de faire ça vu que c'est un projet open source. Enfin, c'est comme, vous voyez, vous êtes dans la nature, vous devez faire un feu, vous voyez où vous êtes à Koh Lanta, je sais pas, vous voyez votre collègue qui fait du feu en frottant un bâton comme ça, vous copiez sa technique pour faire du feu, oui, mais il y a rien de mal à faire la même chose ça me paraît, c'est la technologie, elle est pas brevetée ou quoi, il y a pas de propriété intellectuelle dessus vu que c'est open source. Donc je trouve ça très bizarre de dire que de titrer Huawei a copié Android 10. Je trouve ça malvenu. Voilà, je trouve que c'est pas correct. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce que en fait, il y a aussi l'Easter Egg de Android 10 qui est dans les applications préinstallées. Donc je comprends, mais en fait, s'ils ont cloné fork, ça veut dire fourchette en anglais. Donc c'est comme si on faisait des branches de fourchette. Mais s'ils ont cloné, ils ont cloné et ils ont appliqué leur propre service. Ça me choque pas en fait. C'est le jeu. Android est open source. Point. Il n'y a pas 36 000 façons de faire des interfaces efficaces. Oui et non. Oui, c'est vrai. Non, tu peux quand même faire des choses originales. La preuve avec Material U d'Android 12, où Google a réussi à faire une interface qui ne ressemble pas à iOS. Et c'est cool. Ça dépend du modèle de l'open source que je ne maîtrise pas. Copier de l'open source pour ne pas faire de l'open source est discutable, voire interdit dans certains cas. Oui, non, mais bien sûr. Faut regarder la licence. Non, mais évidemment que Huawei, s'ils ont pris de l'AOSP, Android Open Source Project, ils ont pris des choses qui étaient clonables légalement. Enfin, j'espère. Et ils copient ce qui marche, c'est normal, bien sûr. Il y a eu d'autres choses annoncées. Il y a eu vaguement d'autres petites choses annoncées. Il y a eu des produits annoncés. Justement, je voulais vous parler rapidement d'un produit de Huawei. Alors, attendez, juste je regarde un petit peu la news. Ils ont annoncé la montre Huawei Watch 3, les tablettes MatePad Pro 2021 et MatePad 11, et les écrans MateView et MateView GT, les FreeBuds 4 aussi, qui sont leurs écouteurs type AirPods, et ils ont teasé un petit peu leur Huawei P50. Je ne vais pas vous faire toutes les news, mais, je voulais vous montrer le P50 rapidement, parce que je trouve que le smartphone est intéressant, et probablement que le smartphone va avoir un... Vous savez qu'on aime bien parler de photos. Le smartphone va avoir un gros capteur, très probablement. Surtout sur ce module photo-là. Vous voyez que là, il y a beaucoup de profondeur sur le couple objectif, au niveau de l'objectif. Et probablement qu'on va avoir un énorme capteur, vu la taille du module photo et la protubérance. Donc je suis intéressé de voir ce que va faire Huawei sur la photo. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Après, on ne parle pas plus de Huawei parce que Huawei utilise leur propre service factice Google, mais vous n'avez pas le Play Store, vous n'avez pas des choses comme ça. Donc, utiliser du Huawei aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas des smartphones que je recommanderais. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas tant que ça. Mais quand même, il y a une conférence de Huawei. Je trouvais que ne pas en parler dans un mug, c'était un petit peu compliqué. Des platines vinyle. Ouais, il y a déjà des mèmes hein, sur ça. Mais pour vous dire à quel point ça a été compliqué de trouver des news un peu claires, même sur Reddit, il y avait très peu de gens qui ont fait des choses, qui ont parlé des annonces Huawei. C'était un an. Ce matin, j'ai genre vraiment passé, je pense, 20 bonnes minutes pour essayer de trouver des choses un peu claires sur Huawei, Harmony OS, les choses ajoutées. Il n'y a que Frandroid qui a fait un bon article. Le reste des news sont pas super. C'est pas idéal pour dégoogliser. Bah non, Hibou, parce que tu passes au lieu de, comment dire, tu passes de Android googlisé à Android Huaweiisé avec des choses qui sont envoyées en Chine. Si tu préfères le gouvernement chinois, si c'est ton droit, moi ce que j'essaie de faire, c'est un peu ni l'un ni l'autre. Mais quitte à envoyer, je préfère quand même envoyer des choses encore aujourd'hui aux États-Unis. C'est pas un pays exceptionnellement parfaitement démocratique, mais ça me paraît être un peu moins pire. Perso, j'ai pas dit que c'était parfait, hein. Il y a plein de crasses des États-Unis, bien évidemment. Merci Olek Impec pour ton réabonnement. Tonton Flingueur qui se réabonne, merci à toi. Perso, depuis que j'ai du Huawei, je n'ai plus de service Google, j'ai vraiment du mal. Après, ça reste un très bon téléphone, mais je passe mon tour. Chaussettes rouges, Poupie Lala. Très drôle de pseudo, très drôle, mais pourquoi pas. J'ai un P30 Pro et c'est un super téléphone, mais l'impossibilité d'avoir le Play Store, je vais repasser sous iOS. C'est pour ça que j'ai pas envie de recommander du Huawei. iPad Pro 2021, avis. Trop tôt pour l'instant. Trop tôt, on va en faire une vidéo sur Nowtech, ça c'est sûr. Après, si tu veux un avis global, c'est une excellente tablette. Je te dirais un peu Jet Monster d'attendre la WWDC qui est dans 4 jours. Parce qu'il va y avoir iPadOS 15 et on verra un peu des nouveautés et regarde si les ajouts vont peut-être t'intéresser aussi. Voilà. Il est 9h03, on va passer à la tartine. Merci Olivier G pour ton réabonnement. On va passer à la tartine, mais avant, évidemment, nous allons parler de notre sponsor ExpressVPN. Il est là, le petit sponsor ExpressVPN. On les remercie de soutenir l'émission. ExpressVPN, on en a parlé déjà dans la vidéo des iPhone 12 que j'espère vous n'avez pas loupé. C'est une vidéo qui a déjà quelques mois quand même. Un VPN, vous savez à quoi ça sert, hein. Ça sert à être dans un autre pays. Donc, ça peut être utile pour consulter certains sites web qui ne sont pas dispo dans votre pays, pour aussi des services de SVOD si vous partez à l'étranger, des choses comme ça. ExpressVPN, on aime bien parce qu'ils ont un engagement sur la vie privée qui nous plaît, notamment ils n'enregistrent pas l'adresse IP, l'historique de navigation, destination du trafic, pas de métadonnées, pas de requête DNS. Vous avez sur leur site une explication de ça, hein, Policy Toward Logs, je vous mets le lien d'ailleurs si ça vous intéresse sur leur engagement vie privée. Voilà, comme ça vous pouvez aller voir. Vous avez 160 localisations serveurs dans le monde, donc vous pouvez vous placer n'importe où, donc ça c'est plutôt chouette. Ça fonctionne sur plein d'appareils, Windows, Mac, iOS, Android, du Linux, du routeur, de la console de jeu, de la Smart TV, tout est expliqué sur leur site. Vous avez un mois d'essai, donc vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés, et vous avez, si vous prenez un abonnement d'un an, 3 mois gratuits offerts sur votre abonnement d'un an. Voili, voilou, donc le lien c'est expressvpn.com/nowtechtv. C'est un lien évidemment affilié, hein, c'est un lien partenaire. Donc voilà. N'hésitez pas à aller tester tout ça. Encore une fois, vous avez un mois d'essai, donc ça régale. Voilà, merci à eux de sponsoriser l'émission. Et on fait un petit bisou aussi à Pritel, qui sont nos deuxièmes sponsors. Mais Pritel, c'est Jérôme qui en parle, qui en parlera demain, tout simplement. Je vous propose qu'on passe à la tartine. Petite tartine, on va reparler un petit peu de vie privée. C'est surprenant, ça, dis donc. On va parler un petit peu de vie privée, RGPD, CNIL. Ça va être assez intéressant. Alors je tiens juste à préciser quand même un truc sur ExpressVPN. ExpressVPN ne va pas magiquement, c'est quand même important, vous rendre anonyme sur Internet. Ce n'est pas le but d'un VPN. Par contre, la vie privée dont je parle, c'est la vie privée d'ExpressVPN quand vous utilisez leur service. Il y a bien une nuance à faire. C'est-à-dire que si vous utilisez ExpressVPN, vous connectez et vous vous connectez à votre compte Google, vous n'avez aucun anonymat, hein, évidemment. Voilà, en plus, enfin, je vais être honnête avec vous, pour faire du vrai anonymat sur Internet, c'est extrêmement compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Et ce n'est pas un VPN qui va vous rendre anonyme, hein, loin de là. Le VPN va changer votre IP et c'est tout. Voilà, donc voilà, pas de fausses promesses et de fausses choses sur Nowtech. Voilà, pas de message dans l'oreillette. tout va bien, a priori, c'est très cool. On va parler d'un article que j'ai trouvé ce matin, que je trouve assez intéressant. Ça a été écrit par Alain Steinmann, j'espère que je prononce bien son nom, sur Journal du Net, qui est un journal qui est très, très, très bien, sur le numérique, sur tout ça. Un discours assez amer sur le RGPD et la CNIL, c'est pour vous donner un peu une pluralité d'opinions sur les débats vie privée, tout ça, pour que vous ayez d'autres sons de cloche que le mien, qui est, moi, je trouve que ce que fait la RGPD et la CNIL, je trouve que c'est quand même un bon pas en avant, c'est des bons pas dans la bonne direction, mais pour certains acteurs, c'est très violent, le RGPD et la CNIL, et je trouve que certains arguments sont intéressants, je suis pas d'accord globalement avec l'article, mais je voulais vous le lire parce que je trouve ça assez chouette. Donc je vous le lis. Je vous le lis d'ailleurs et je vais vous le mettre en même temps, l'article, comme ça vous l'avez visuellement et c'est assez intéressant. Je vous le mets dans le chat si vous voulez le lire un peu au calme, si vous partez au boulot, mais vraiment cet article je le trouve chouette parce que c'est une autre vision. Ça ressemble un peu à l'article qu'on avait fait sur Mac Generation, très similaire, mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que j'aime bien, ça fait réagir. RGPD CNIL, le constat de l'échec. Les données personnelles des Français sont plus pillées que jamais. Les acteurs européens de la tech sont massacrés. Les GAFA sont au fait de leur puissance. La technocratie a tué la tech européenne. Bon anniversaire, c'était il y a un peu plus de 5 ans déjà. Le 24 mai 2016 entrait en vigueur le RGPD pour une application 2 ans plus tard. Les technocrates qui l'ont pondu nous avaient promis 1000 merveilles. L'Europe allait devenir un nouveau continent du respect des données personnelles pour le bien de l'ensemble de ses citoyens, ce qui allait créer un nouveau pan entier de l'économie, permettre le développement de milliers de start-up, tout en, gnarc gnarc, boutant hors de nos frontières les méchants GAFA. Un rêve de technocrate vendu à ceux qui voulaient bien y croire. Il y a d'ailleurs un village Potemkin où tout semble aller pour le mieux pour les données personnelles. Le 3 place de Fontenoy dans le chic 7e arrondissement de Paris, le siège de la CNIL. Si cet organisme était lucide, il tirerait le bilan de 5 ans d'échec de régulation des données personnelles et écrirait ceci dans son bilan annuel. Premier point. Les données personnelles des Européens et des Français sont exploitées et raffinées comme cela n'a sans doute jamais été le cas. Par des milliers d'entreprises Shadow, rien à voir avec Shadow bien sûr, hein, on leur fait des bisous, situées à Tel Aviv ou à Hong Kong au lieu de l'impunité numérique. Elles collectent, volent, traitent et revendent les données de chaque citoyen européen. La CNIL n'y peut rien, ces sociétés ne daignent même pas lui répondre. Alors elle met à l'amende Carrefour, un PDG très en vue, un siège social en France, une marque connue, des activités non délocalisables. Voici la cible idéale pour les courageux serviteurs de la CNIL, un faible qui va payer. Un communiqué de presse où la présidente Marie-Laure Denis pourra montrer qu'elle agit et préparer la suite de sa carrière. Ailleurs, loin des champs de ruines qu'aura provoqué le RGPD. Contribuable, ton argent n'est pas jeté par les fenêtres à deux pas des invalides. Regarde, on te protège. Propagande qui ne sert qu'à masquer que seules les entreprises européennes respectent le règlement. Les autres s'en contrefichent. Même les GAFA, pourtant très en vue, leur adresse est dans les pages jaunes, n'ont jamais mis en place les recommandations de la CNIL sur la possibilité de refuser tous les cookies en entrant sur le site. Bon, alors juste pour commenter un petit peu, il y a un truc que j'aime pas dans l'article, c'est le ton. Que je trouve très agressif. Je trouve que le fait de dire, de donner l'adresse de la CNIL, de donner le nom de la présidente, je trouve qu'il y a un côté très, très guerrier. Un peu trop guerrier, un petit peu trop agressif, un peu trop violent. Ça fait très, regardez, c'est notre ennemi. Enfin, tu peux dire la même chose en disant la présidente ou sans donner l'adresse, ça change pas le discours, je trouve. J'avoue que c'est des choses que j'essaye de pas faire, moi. Je suis peut-être pas parfait, mais j'essaye de pas. Citer des noms comme ça de façon gratuite, bon bref, après ça se trouve je le fais aussi, bon bref, avançons. Regardons d'ailleurs la situation économique des sociétés européennes, catastrophique. En devant s'astreindre à respecter ces règlements abracadabrantesques, pas facile celui-là, les recommandations de la CNIL pour un popin de recueil du consentement font 14 pages. Alors ça, je pense que c'est une vraie critique. Je pense que la CNIL est quand même très pénible à mettre... Enfin, le RGPD est très pénible à mettre en place. Je pense que c'est vrai. Elles sont désavantagées de facto par rapport à leurs concurrentes mondiales qui, elles, n'en ont cure. Toutefois, le numérique n'a pas de frontières. Qui l'ignore encore? Dans le numérique, on est soit un conquérant mondial, soit une colonie numérique mondiale. Il n'y a pas d'alternative, mais il ne suffisait pas de permettre de facto à d'autres ce qui est interdit à nos entreprises. On les a aussi forcés à embaucher des dizaines, voire des centaines pour les plus grosses, de salariés improductifs. Alors, sur ça, je tempère maintenant. C'est à la fois vrai, mais il faut pas oublier que les GAFAM, enfin les GAFA et les entreprises qui sont qui respectent pas le RGPD, ont employé des dizaines d'avocats et d'avocates pour trouver des moyens de contourner le RGPD aussi. Donc les coûts sont des deux côtés. Je trouve ça un petit peu facile. Ça, bref. Ces petits du RGPD et leurs centaines de consultants passent leur temps en réunion stérile pour savoir comment s'adapter à tel point du RGPD et modifier telle phrase dans les conditions générales ou bien encore s'adapter à l'interprétation de la CNIL. Quelle valeur produisent-ils ? Aucune. Je suis pas d'accord, mais ok. Combien coûte-t-ils ? Fort cher. Nos entreprises ont donc moins de revenus et plus de charges par rapport à leurs concurrents mondiaux. Je pense factuellement que c'est pas vrai. Ça. Les voilà bien embarqués. Qu'en est-il des GAFA ? Vous inquiétez pas, l'article n'est pas très très long. Qu'en est-il des GAFA ? On pourrait répondre que réguler les GAFA, c'est comme le sexe, ceux qui en parlent le plus en font le moins. Ouvrir la presse française et européenne est déprimant. De sempiternelles interviews de ministres et sous-pachas qui nous clament « il est temps de réguler les GAFA ». Ah bon, et que fait-on concrètement ? Rien. C'est pas vrai non plus. C'est vraiment pas vrai. Si vous suivez le mug, on parle très régulièrement de beaucoup de choses qui sont faites contre les GAFA. Il y a eu beaucoup de problématiques sur la presse, sur les journaux. Il y a eu des amendes qui ont été mises. Alors, elles sont pas à des chiffres exceptionnels. Objectivement, il n'y a pas rien qui est mis en place. C'est juste que lutter contre les GAFA est extrêmement difficile parce que ce sont des ogres. Simplement. Depuis toujours, les revenus, c'est pour ça que, en fait, j'ai un peu de mal avec ce genre d'article parce que je trouve que dans un discours qui pourrait être super intéressant et des arguments super intéressants, on part en guerre et on oublie factuellement des choses et on fait du discours extrêmement agressif mais qui devient faux. Alors qu'il aurait pu dire, il y a des choses qui sont faites mais qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et ça aurait été vachement mieux de lire ça parce que c'est plus vrai. Les revenus des GAFA en Europe n'ont jamais été aussi importants, leur part de marché aussi élevée, ils se régalent de notre incurie et ce n'est pas terminé. La fin des cookies sera une opportunité gigantesque pour eux. Jusqu'à présent, grâce aux cookies, une petite start-up pouvait tracer les utilisateurs pour mieux les cibler. Oui, mais ça, c'est peut-être problématique aussi. Bref. Coût quasi zéro, implémentation accessible à un étudiant de DUT première année. La suppression des cookies n'empêchera pas les GAFAM de cibler les consommateurs. Ils utiliseront de la big data, du calcul temps réel et de l'IA. Ça, par exemple, c'est vrai. La suppression des cookies n'empêchera pas les GAFA de cibler les utilisateurs. C'est vrai, je pense. Coût élevé, forte barrière à l'entrée, ils seront les seuls à pouvoir se le permettre, comme ils seront encore plus monopolistiques. C'est pas forcément vrai, il peut y avoir du démantèlement dans les prochaines années aussi. Ils pourront alors augmenter leur prix. Et comble de la pitrerie, c'est la boulangère d'Aubervilliers qui paiera in fine les investissements des GAFA dans les technologies post-cookie, tout comme c'est le consommateur français qui paye les taxes GAFA. Qui a été surpris, dès 2013, nous écrivons que cela se terminerait ainsi. Ça, c'est pas forcément faux. Il me semble qu'il y avait le problème d'Amazon avec la livraison, des trucs comme ça. Donc ça, c'est potentiellement vrai. Qu'eût-il fallu faire ? Peut-être la seule chose qui a fonctionné dans l'histoire de l'industrie. Laisser nos entreprises européennes se développer avant de leur imposer des règlements. Alors, c'est le point où je suis le moins d'accord avec l'article. Parce que c'est très... C'est le discours très... On s'en fout. Laisser les entreprises faire ce qu'elles veulent. Pas de régulation. Je suis vraiment pas d'accord avec ce point. Si moralement, il y a des bonnes choses à faire, il faut légiférer. Et si c'est pas respecté... C'est parce qu'il y a un problème de monopole. Ce que je veux dire par là, c'est que dire « laisser les entreprises européennes se développer avant de leur imposer des règlements », bah non. Enfin, s'il y a des règlements qui sont imposés, qui sont importants et qui légalement et moralement sont bons pour les utilisateurs, il faut les mettre en place. Et si certaines entreprises non européennes ne les respectent pas, c'est un autre problème. Et ça crée de la concurrence déloyale. J'entends les défauts. J'entends les problèmes que ça crée, mais pour moi c'est quand même, enfin tu peux pas dire ça, enfin pour moi on peut pas dire ça honnêtement. Donc dans ce cas-là, en fait c'est le Far West. Je pense pas que le Far West soit bon pour tout le monde. Hein. Une chose est vraie, le plus important, les PME du web sont largement plus. Oui, mais bien sûr, Vincent. Et je pense que JDNet est une PME fortement touchée par ces changements-là. Donc je comprends qu'il soit ultra énervé. Je comprends qu'il y ait une baisse de revenus violente, on l'a vu avec Mac Generation qui a perdu beaucoup de chiffres AdSense et tout ça. J'entends les problèmes, mais le coupable n'est pas le bon. Le coupable n'est pas le RGPD, la CNIL, même s'il y a des choses à critiquer dessus. Le coupable, ce sont les entreprises qui ne le respectent pas. Enfin, de mon point de vue, ils prennent un nivellement par le bas. Oui, c'est pour moi, c'est je suis d'accord avec toi, Hibou. Je pense que c'est voir le problème dans le mauvais sens. Mais je comprends et je veux vous le lire cet article parce que je veux que vous ayez d'autres sons de cloche que le mien. C'est important. Voilà. En faire des mastodontes mondiaux nous permettant de conquérir au lieu d'être conquis. Voilà. C'est ce que font les Américains. Et quand leurs entreprises sont très fortes, ils les régulent et ils les taxent. Alors, oui, ça met un peu de temps quand même, là, hein, à être régulé, à être taxé. Honnêtement, là, ça fait quand même 10-15 ans maintenant que des GAFAM sont un peu en mode Far West. C'est le cas en ce moment. Les perdants du numérique en Europe, comme Monsieur Jourdain, ils sont perdants, mais ils ne l'ont pas compris, s'en délectent en pensant « ça y est, les GAFA vont mordre la poussière », ne saisissant pas que pour les Américains, réguler une entreprise, c'est constater qu'elle a écrasé tous ses concurrents et qu'il n'y a plus rien à gagner. Si les USA régulent votre concurrent américain, c'est que vous êtes mort, même si vous ne le savez pas encore. Pour réguler les GAFA en Europe, il suffisait de laisser se développer des concurrents européens qui leur auraient piqué des parts de marché, au lieu de tuer dans l'œuf ses concurrents avec des règlements kafkaïens. Bon, voilà, on n'est pas d'accord sur ça. C'est cool, hein, de pas être d'accord, hein, c'est bien. Moi, j'ai la vision utilisateur, utilisatrice. Le pillage qu'on fait sur vos données privées aujourd'hui n'est pas correct. Et ce que font les GAFAM, enfin les GAFA, n'est moralement de... Ah, parce que c'est la loi, c'est de la morale aussi. Ne me paraît pas moralement pertinent. Et donc, il va y avoir des baisses de revenus fortes. Et effectivement, mais comme dans toutes évolutions, ce sont toujours les petits acteurs qui sont touchés durement. C'est toujours les petits acteurs qui s'en prennent plein la gueule. C'est jamais les grosses sociétés. Évidemment. Évidemment, évidemment. Ils sont trop bons les cookies de la boulangère d'Aubervilliers. Je suis bien d'accord. Laissez-moi cambrioler une banque avec cet argent, je vais faire marcher l'économie, c'est un peu ce qu'il écrit. Tu pousses un peu l'argument loin, mais c'est un petit peu ça aussi. C'est un petit peu ça. Tiers monde numérique. Le bilan du RGPD est effrayant. Ceux qui en sont responsables devront rendre des comptes. Évidemment, nos bons technocrates ont beau jeu de nous dire « tout va bien ». En fait, j'aime pas aussi ça parce que nos bons technocrates, les gens qui ont bossé sur le RGPD et la CNIL sont pas non plus des débilos. Et je pense que la plupart savaient que c'était un mal pour un bien. Évidemment, qu'en faisant le RGPD et la CNIL, ça allait taper violemment sur beaucoup d'entreprises. Mais je trouve ça nul de faire nos bons technocrates, de faire le panier des technocrates et tout. Je trouve ça... au niveau du débat, je trouve ça dommage. Gavé de dettes, de subventions, nos entreprises européennes semblent se porter à merveille vu depuis le village Potemkin de la CNIL. En réalité, leur part de marché s'effondre, leurs taux de marge sont deux, voire trois fois inférieurs à leurs homologues américains. Il y a 35 ans, la situation est exactement la même entre les entreprises industrielles américaines et leurs équivalents soviétiques. Bon, je trouve ça pas pertinent. Il y a 35 ans, il y a 200 ans, la situation était différente. C'est pas pertinent de dire qu'il y a X années. Tu peux tout justifier avec « il y a X années quelque chose ». D'un côté, des marges importantes, des produits performants, une conquête mondiale. De l'autre, la bureaucratie. Un des autres problèmes qui est pas cité dans l'article, c'est qu'en fait, on utilise des produits américains aussi, tout simplement. Si on utilisait des produits majoritairement européens, il n'y aurait plus tout ce problème-là, vu qu'on utiliserait des produits européens et qu'il n'y aurait pas la concurrence avec les États-Unis. On nous dit que l'Europe a aussi produit des licornes. Certes, il y en a quelques-unes, mais la vérité est que la plupart n'arrivent pas à s'exporter sur d'autres continents. Ça, c'est vrai. Pourquoi ? Car leur réussite vient bien souvent de leur exploitation du millefeuille administratif européen qui, n'existant pas ailleurs, ne peut pas être exploité ailleurs. Ouais, ou aussi parce que le business model de ces licornes n'est peut-être pas basé sur la vie personnelle des gens. La vie intime. Sur le viol de la vie intime. C'est faible d'utiliser ce type de mot négativement connoté pour essayer d'emporter l'adhésion du lecteur. Ouais, je trouve que ça aurait pu être plus équilibré comme discours. C'est dommage. Parce que je trouve que les arguments sont pas non plus débiles. Je pense qu'effectivement, il y a un problème d'accompagnement aux entreprises à la législation du RGPD. Il y a des choses, il y a de l'aide financière qui aurait pu être mise en place, peut-être plus. Il y a des choses comme ça. L'aide à trouver. Mais il faut bien comprendre que le business model de la vie privée est un business model... qui ne peut pas durer dans le temps. On est au changement, là, de quelque chose. Le citoyen, lui, a été dupe car on lui fait croire que les méchants étaient les entreprises avides de données et qu'ils seraient protégés par toutes ces réglementations à condition de céder aux sirènes des technocrates. On a entretenu une paranoïa infondée autour des données personnelles. Ah, tiens, j'ai l'impression de lire certains messages du chat. Je taquine. Je me fiche bien car France sache où je vais partir en vacances. Ça, pour moi, c'est une phrase de quelqu'un qui volontairement, soit n'a pas compris le problème de la vie privée, soit ignore ou fait de la mauvaise foi. Le problème n'est pas qu'Air France sache où je vais partir en vacances. Ils ont besoin de savoir, évidemment, Air France, de savoir où je vais partir en vacances. Le problème, c'est que sur le site d'Air France, il y a 46 000 entreprises inconnues au bataillon qui sauront, pour utiliser le bon verbe, enfin le bon temps, ce qu'il y ait 46 000 entreprises qui sauront là où vous allez aller et qui vont connaître tout le détail, toute votre transaction financière, peut-être des détails sur votre carte bleue qui permettraient de coupler des choses, votre nom, votre prénom, votre âge, des choses comme ça. Le problème n'est bien sûr pas qu'Air France sache où je vais partir en vacances. Le problème, c'est que t'es 46 000 entreprises derrière qui vont savoir ça. Donc ça, pour moi, c'est dommage de terminer l'article sur des choses comme ça, parce que soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est de l'incompréhension. Mais on a soigneusement oublié de dire en parallèle que le prix à payer de tous ces règlements serait la mort de notre industrie tech. Non, la mort de l'industrie tech basée sur la vie privée, pas de l'industrie tech. Attention. Et la porte ouverte à l'industrie tech de pays dans lesquels nos lois n'ont aucune portée et qui vont exploiter nos données personnelles. Sans aucun cadre, les effondrements... Alors ça, pareil, le problème n'est donc pas le RGPD et la CNIL. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre à l'étranger. Les effondrements ne se constatent pas petit à petit, mais subitement, un jour, ce jour-là, nous verrons le résultat d'années de technologie et d'URSSisation de la tech européenne. Nous serons alors définitivement relégués en destination de vacances et en fabriquant de sacs à main le tiers-monde numérique. Nous avons perdu. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais voilà, mais c'est intéressant, vous avez un autre son de cloche sur un article qui fait un constat différent du mien. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord du tout, mais je respecte son opinion. Je suis moins fan du côté très vindicatif, très agressif, très eux contre nous. Mais moi, je pense que je vous l'ai dit, le problème fondamental, c'est que l'industrie de la tech basée sur la collecte de votre vie privée est une industrie qui ne peut plus durer. C'est ça le problème. Là, aujourd'hui, les GAFA continuent de gérer le truc, mais le bateau GAFA commence à avoir des trous dans la cale. Faut pas croyez pas que ça va bien pour les GAFA. Mark Zuckerberg, il fait des sorties médiatiques. Facebook est inquiet. Mais bien sûr que Facebook est inquiet. Aujourd'hui, ils continuent d'avoir des croissances dans leur chiffre d'affaires, mais ils savent qu'il y a un changement là. Ils savent qu'il y a un changement. Tes données ne sont pas uniquement sur smartphone. Tu peux voir un doc de cache investigation sur la récup de données perso des cartes vitales. Après, le truc de la carte vitale, c'est un autre problème. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que quand vous naviguez sur Internet, sur beaucoup de sites, notamment Doctissimo, c'était l'exemple de cache investigation, il est pas mal, c'est que vous avez une vingtaine d'entreprises autour du site web qui vont collecter ce que vous faites sur le site. Et le problème, c'est que pour s'opposer à cette collecte-là, alors aujourd'hui, vous avez le petit volet qui vous dit tout refuser, mais il est très pénible de le cocher à chaque fois. D'autant plus qu'il y a des sites web maintenant, genre Marmiton, qui ne vous permettent plus de virer ça. Il est là le problème. Il est là le problème. Ils ont des vieux blablabla blablabla. JDN, c'est un peu un site élitiste pour les chefs d'entreprise tech de toute façon. C'est une autre opinion que la mienne sur le problème. Et je peux comprendre que quand ça te touche directement à leur portefeuille, ça fasse mal. Nous, typiquement, on pourrait nous critiquer sur YouTube, sur certains changements, sur certaines choses, en mode, bah oui, YouTube, il y a de la démonétisation, mais vous y restez, donc vous contribuez, blablabla. On pourrait nous critiquer comme ça aussi sur Nowtech. Hein. J'avais lancé le générique tartine, je sais plus, merde, je crois que oui. Attention à cache investigation, c'est toujours à charge et bourré de biais de confirmation. C'est pas parfait, cache investigation. Mais le côté de dire, enfin, le fait que plein de sites web ont des trackers à droite à gauche, c'est vrai. Tu crois que les Américains vont démanteler Facebook ou Google ou c'est du bullshit? Merci Olek Impec dans l'oreillette. Non, je pense que c'est pas du bullshit. Je pense que Facebook et Google et tout ça peuvent être démantelés. Ça s'est déjà produit dans l'histoire américaine. Je suis assez convaincu que ça peut se reproduire. Pourquoi? Ah, voilà, c'est bon. Du coup, c'est pas illégal ce que fait Marmiton. Non, la CNIL a validé, a priori. Hello, du coup, est-ce que ça freinera le développement du pass européen du Covid? Bonne question, aucune idée. Niveau vie privée, t'as vu passer la news sur le portefeuille numérique qui veut lancer l'Europe? Non, j'ai pas vu passer. Sans vouloir être parano, on n'est pas là pour être parano. Est-ce que en cochant la case refusée, ça ne collecte vraiment pas nos données? A priori, non. Quand tu fais continuer sans accepter les traceurs, normalement, et les sites web le mettent en place, normalement, ça ne collecte pas les choses. Tu as vu l'article de la quadrature du net, les GAFAM échappent au RGPD, la CNIL complice. Je l'ai vu passer, il faudrait que je le lise. La quadrature du net, c'est un peu l'opposé complet de Journal du Net, pour information. Et la quadrature du net, c'est un site que j'aime beaucoup, mais J'ai déjà vu des critiques à l'encontre de la quadrature du net qui sont pas dénuées de sens. Donc il faut se méfier. De toute façon, il faut se méfier à chaque fois des extrêmes. Pour moi, le JDN, c'est un peu le côté extrême en mode la RGPD, c'est pas bien, les entreprises devraient être libres de collecter les infos. La quadrature du net, c'est un peu l'inverse. C'est un peu le côté un peu opposé, peut-être un peu trop alarmiste des fois, peut-être même un poil trop anxiogène parfois. Mais ils ont fait des super articles sur certaines choses, sur les lois renseignement, les choses comme ça. Donc, voilà, je pense que l'équilibre se situe peut-être un peu entre les deux. On va passer, il est quelle heure? Il est 9h27, on va passer au camp de fax, on va continuer de parler un petit peu de tout ça. Si vous avez d'autres questions tech aussi, n'hésitez pas. C'est parti. Je suis partagé avec le mot extrême qui décrédibilise une idéologie d'entrée de jeu. C'est un bon message, Nomand, je suis assez d'accord avec toi. C'est peut-être pas le bon mot extrême. Je te dirais très... Comment je pourrais te dire ça alors? Très orienté peut-être? Ça m'a peut-être échappé, mais je ne crois pas que la récente polémique sur le double discours d'Apple sur la vie privée Chine ait été traitée dans le mug. Comme tu es le plus engagé de vous trois sur le sujet, quel est ton avis sur tout ça? Si ça a déjà été fait? Non, c'est une très bonne question, Eliav. Je vais te répondre très simplement. iOS et Apple en Europe et aux États-Unis, c'est OK. Apple et iOS en Chine, c'est pas OK. Non, la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un double discours qui est très hypocrite, mais en fait, Apple gagne énormément d'argent en Chine. Donc, Apple a le choix entre couper ce business-là ou ne pas le couper. Couper ce business, et ils ont fait le choix de ne pas couper le business pour garder énormément d'argent, mais en permettant au gouvernement chinois d'accéder aux données. Avec un serveur à côté, machin et tout. C'est tout. Ça ne change pas le côté intéressant d'iOS pour la vie privée en Europe et aux États-Unis. Mais par contre, effectivement, en Chine, les iPhones chinois, les données sont envoyées au serveur. Voilà. Donc c'est hypocrite, c'est un double discours. Mais je pense que si vous saviez le nombre, l'hypocrisie et le double discours qu'il y a dans plein d'entreprises... tech, enfin, il y a plein de choses qui peuvent être critiquées sur n'importe quelle marque en fait. Aucune marque ne fait pas de l'hypocrisie à un moment. Enfin, toutes les marques font de l'hypocrisie à certains moments. Et même, enfin, j'ai envie de pousser un peu le truc au bout du truc, enfin, jusqu'au bout, mais même vous, moi, dans nos vies, on a des côtés hypocrites. On dit qu'on fait certains trucs et en fait, 2 mois plus tard, on le fait plus. Ça nous est tous arrivé donc. Voilà, après, pour Apple, on a le droit de juger, et je juge aussi, je trouve que c'est pas bien, évidemment que c'est pas bien. C'est hypocrite, Apple se dit défenseur de la vie privée, il donne les données au gouvernement chinois, oui, c'est nul. Maintenant, Apple, c'est une entreprise qui fait de la thune, on vous l'a toujours dit, sur le mug, Apple, c'est pas votre pote, et ils choisissent de garder la manne financière chinoise. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est logique? Oui. Voilà. Perso, ce que j'ai lu sur le sujet est pas très solide nouveau, mais on va voir comment ça évolue. Voilà. As-tu trouvé une astuce pour mettre à jour automatiquement sur Aurora Store? Non. Par contre, normalement, Android 12 permettra de le faire à Cranit. Ça peut t'intéresser. J'envisage de remplacer mon iPad 2 de 2012 fin d'année. Si Apple ne sort pas un iPad 9, est-ce que le 8 ne sera pas déjà un peu vieux? Si tu veux le garder un beau moment, prends-toi un iPad Air, Ronnie. C'est le meilleur choix aujourd'hui, je trouve. Certaines entreprises ne sont pas philanthropiques. Non, mais enfin, très peu d'entreprises à but lucratif sont philanthropiques. C'est tout. Le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Après, il y en a qui le font avec plus ou moins de moralité, mais le but premier d'une entreprise, c'est de faire de l'argent et il y aura des choix qui seront faits. Et certains sont pas très beaux. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Hein. Guillaume, il est 9h30, c'est à peine le début. Non, on va arrêter dans 2-3 minutes. Je vais en profiter, poser encore quelques questions. Je vais juste en profiter pour regarder qui on va raid. On va pas raid Flonflon, même si c'est le péché mignon, Flonflon, évidemment. Non, on va pas raid Flonflon, on va regarder un petit peu d'autres personnes. J'aimerais bien... Alors, ça sera soit Corben, mais j'aimerais bien raid un peu des nouvelles personnes. Je trouve ça fun de raid des personnes qu'on connaît pas trop. Pritel ou ExpressVPN? Les deux, bien sûr. Les deux. Oui, petit rappel en attendant. Évidemment, jeudi contributeur à 18h. Jérôme vous parlera un petit peu en privé avec les gens qui contribuent à la chaîne des dessous de la chaîne, de nos... Voilà, en rigolant, dans une bonne ambiance. Hein, ce qui est dans le jeudi contributeur reste dans le jeudi contributeur, bien sûr. Alors, je regarde un petit peu qui est en live. Voyons voir. Alors. Je vais essayer de vous envoyer sur des lives un petit peu chill. Histoire de décompresser, parce qu'on a fait quand même un petit live quand même très très vie privée, un poil anxiogène, donc bon, effectivement j'ai envie de vous envoyer je regarde là, on va parcourir un petit peu les chaînes. Pépépin, ouais, j'aime beaucoup Pépépin, elle est très chouette, elle est très 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 chouette Pépépin, mais je vais regarder un peu les chaînes pas connues du tout, je vais aller dans les chaînes un petit peu plus en bas. Les chaînes en français. Oui, chaînes en français, s'il vous plaît. Triées par spectateur. Spectateur du plus petit. Ouais. Tac, tac, tac. Fortnite. Putain, il y a du monde. Hein. Fortnite. Alors, il y a beaucoup de trucs. Mais je voudrais les trucs en français, moi. Ouais. Tchac, tchac, tchac. Spectateur décroissant. On va faire comme ça et on va descendre petit à petit. Alors, qui y a? Je regarde des gens qui ont moins d'une centaine. Tuc, 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 routine de harpe celtique. C'est rigolo ça. C'est pas mal. Je regarde s'il y a des trucs un peu originaux. Il y a de la broderie, c'est marrant. Incroyable. Est-ce que vous avez des suggestions peut-être? Carbo pour du Overwatch, il y a Corben dans les pas connus quand même. Je te suis depuis 2015, c'est génial la vie que tu as. Ben merci à toi, à Cranier, de me suivre depuis aussi longtemps. Squirrello, ok. Squirrello, voyons voir. Squirrello. Science et technologie. Alors, le live commence dans 2 minutes. C'est le problème, c'est que le live n'est pas démarré. Ça m'embête un petit peu. Scaragu, je regarde. Suggérer des choses et je regarde si ça me paraît chouette. Scaragu qui fait un café tech, ok. Pourquoi pas, ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Tac, tac, tac. Il y a Velvet, ouais, tout à fait. Ah, mais il y a TV Louis. Et c'est vrai que je sais que TV Louis, il nous connaît. Il connaît Naotech. Eh bien, on va aller chez TV Louis. On va leur faire des bisous. Parce qu'on sait qu'il nous regarde. On sait que... Je crois que c'est Tev. Oui, c'est Tev qui nous regarde. On va aller chez Tev. On va lui faire des bisous. Faites-lui des bisous. Tac, on va lancer le raid sur une chaîne. Il joue à Euro Truck Simulator. Donc bon, c'est... Je sais qu'il y a des gens qui kiffent. Moi, j'avoue que je suis totalement passé à côté. Mais on va lui faire des bisous à Tev et Louis. Un problème est survenu. Ah, lancer un raid sur une chaîne. Bah, on va peut-être pas pouvoir lancer le raid. Non, ça marche pas. Ah, merde. Attends, je vais actualiser. Merde, ça marche pas ce matin. Chez Tev, il doit être 15h. Ouais, il est au Japon, donc effectivement, il faut avancer. Ils ont fait une rêve, tout à fait. Ils nous ont mentionné lancer un raid. Je vais réessayer le raid, et si ça marche pas, bah écoutez, tant pis. Hein. Merci, monsieur Biclou, pour ton réabonnement. Non, les raids sont cassés ce matin. Ça marche pas. Ça marche pas. Du tout. Shit. Bon, eh ben tant pis, ben, on va terminer l'émission là-dessus. Mince, mais c'est dommage ça. Bon, ben on vous envoie le lien si vous voulez aller sur TV Louis. Allez, salut Alex, je t'ai vu. Ciao les gens, merci à tous d'avoir écouté le mug. 18h ce soir, rendez-vous contributeur. Faut aller sur Discord pour tout ça. Et demain matin, le mug avec Jérôme. Ciao tout le monde, bye bye. J'ai compris en fait, c'est que Tavé Louis a dû bloquer les raids. C'est pour ça que je n'ai pas réussi à le raid. Eh bien, on va aller chez Corben. Ciao tout le monde.